Vous écoutez France Musique.
Merci Stéphane Grant. Aujourd'hui, Paul Blais avec Guillaume de Chassis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 70e émission du Matin des musiciens du mardi, comme chaque semaine consacrée au jazz. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers d'une forte personnalité, celle du pianiste Paul Blais, un musicien qui a marqué le jazz moderne, même si son nom et son œuvre restent moins connus du grand public que ceux de son contemporain Bill Evans ou de son cadet Keith Jarrett. Originaire de Montréal, mais vite entraîné dans le grand bain du jazz new-yorkais, fin connaisseur de l'histoire de cette musique, Paul Blais s'inscrit clairement dans la lignée du bebop de Bud Powell. Et pourtant, il fait entendre très tôt une voix singulière qui privilégie la poésie du chant et la chair nue de l'émotion. En germe, dès ses premiers enregistrements en trio avec Charles Mingus et Art Blakey en 1953, son langage personnel devient par la suite indissociable de l'esprit des compositions de sa première femme, Carla Blais, qui manie un curieux mélange d'ironie et de simplicité. Investi aux côtés des inventeurs du jazz libre tels Ornette Coleman et Don Cherry à la fin des années 50 en Californie, Paul Blais développe au fil des années un sens aigu de l'interaction et de l'écoute qu'il met à profit au sein de trios hors normes avec Steve Swallow et Jimmy Giuffre ou Gary Peacock et Paul Mossian notamment. Mais il est aussi un partenaire inspirant en duo et un improvisateur de premier plan en solitaire. L'an passé, dans cette émission, nous avons évoqué le monde onirique de Carla Blais avec le musicologue Ludovic Florin et nous avons mis un coup de projecteur sur le trio que Paul Blais forma au début des années 60 avec Jimmy Giuffre et Steve Swallow. Et pour cela, le pianiste Guillaume de Chassis était venu en tandem avec le clarinettiste Thomas Savy. Depuis, Guillaume de Chassis a approfondi ses recherches. C'est donc lui que nous accueillons de nouveau ce matin pour dresser le portrait de Paul Blais. Bonjour Guillaume de Chassis.
Bonjour Arnaud Merlin.
Qu'est-ce qui vous intéresse tellement chez Paul Blais? Ce n'est pas vraiment un modèle, il n'y a pas vraiment d'école, il n'y a pas d'élève de Paul Blais.
C'est un styliste et pour un pianiste comme moi, c'est très frappant de voir à quel point Paul Blais est peu concerné par son instrument. Il ne cherche pas à aucun moment à bien jouer du piano ou à montrer quoi que ce soit. Il ne cherche pas la joliesse. Et je dirais qu'il accède à la beauté presque par effraction. Et pour nous autres pianistes qui nous efforçons, au contraire, de bien jouer de notre instrument avec un joli son, une articulation fluide, c'est une sorte de contre-exemple, une sorte d'anti-académisme qui est forcément fascinant.
Thank you. Aida Lupino, une composition de Carl Abley, gravée en septembre 1972 par le pianiste Paul Bley. Il y a donc un petit peu plus de 40 ans. Paul Bley qui est né en 1932, il avait donc exactement 40 ans puisqu'il en a 80 aujourd'hui. Guillaume de Chassy, ici dans ce solo de Paul Bley sur cette magnifique composition de Carl Abley, c'était une sorte de quintessence de son style.
Oui, c'est vraiment un manifeste stylistique de Paul Bley que cette version d'Aida Lupino, qui est un des nombreux et magnifiques thèmes de son ex-femme Carla.
Et qui figure sur un disque Open to Love paru chez ECM, qui a peut-être agrandi le cercle des amateurs de Paul Bley à une certaine époque.
Oui, au début des années 70, c'est vraiment le décollage de la carrière internationale de Paul Bley, grâce donc en partie à l'éditeur ECM. C'est une musique qui n'est pas facile d'accès, c'est un univers peut-être un peu abstrait pour l'auditeur. C'est une musique très expressive, presque expressionniste. Ce qu'on peut noter comme ça, c'est le caractère très imprévisible en fait, de cette narration. On ne sait pas vraiment où Paul Bley se dirige. Peut-être que lui d'ailleurs l'ignore. Et c'est intéressant d'entendre un musicien qui ose prendre l'auditeur à témoin de sa recherche. Puis il y a une deuxième chose qui me frappe toujours en écoutant en particulier cette plage, c'est la permanence du blues. On entend beaucoup de phrases vraiment très archétypiques du blues et c'est très étonnant dans cet univers un peu minéral qui est celui de Paul Bley d'entendre comme ça ces inflexions qui sont chargées d'âme, chargées d'intention.
Vous parlez d'expressivité, vous parlez d'empreinte du blues, pourtant il y a une grande sobriété ici, il n'y a pas une virtuosité démonstrative.
Il utilise le piano comme un médium pour exprimer son émotion, mais en aucun cas il ne cherche le pianisme, c'est-à-dire la recherche du beau son, du son rond, de l'articulation exacte. Il est bien au-delà de ça.
Pourtant, il pouvait être virtuose. Paul Bley est né en 1932, il est originaire du Canada, il est de Montréal. Et on sait que très jeune, il a été demandé pour remplacer le pianiste Oscar Peterson. Lorsque Peterson est venu travailler aux États-Unis, de l'autre côté de la frontière, donc pour remplacer Oscar Peterson, il fallait avoir des doigts, j'imagine.
Absolument, et à cette époque-là, il en fait preuve abondamment. On l'entend en digne héritier, d'ailleurs, de leur maître à tous, qui est Bud Powell.
Lui, il est né en 1932, donc il a une dizaine d'années de moins que Bud Powell, quelques années de moins qu'Oscar Peterson, mais c'est sa formation, le piano bebop. C'est par là qu'il accède au jazz moderne.
C'est sa langue maternelle, comme celle de tous les musiciens de jazz de cette époque-là.
Y compris Bill Evans, qui a 3 ans de plus que lui, c'est la même génération. Il faut passer par Bud Powell.
Absolument, c'est inévitable.
De Chassy, c'est en quelque sorte le canon de l'époque. Hein. C'est Bud Powell en trio avec Ray Brown et Max Roach. Le thème, c'est Celia, une composition de Bud Powell. Bud Powell qui s'inspire du jeu des trompettistes, des saxophonistes.
Il pense vraiment comme un saxophoniste, comme son comparse Charlie Parker. Il articule ses phrases vraiment comme un instrument à vent. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la force de son style.
Là, nous étions en 1949, Guillaume de Chassy. Paul Bley enregistre son premier disque en 1953 avec Charles Mingus à la contrebasse et Art Blakey à la batterie. Et on va voir ce qu'il y a de Bud Powell dans son jeu. Thank you. petit conte de Noël, Santa Claus is Coming to Town, c'était en novembre 1953. Paul Blais vient de fêter ses 21 ans. C'est son premier disque en trio avec Charles Mingus et Art Blakey, tout de même, respectivement à la contrebasse et à la batterie. Guillaume de Chassy, qu'est-ce qui rapproche et qu'est-ce qui éloigne ce jeune Paul Blais du canon Bud Powell ?
Ce qu'il rapproche, c'est évidemment un certain nombre de tournures de phrases, de clichés tirés du langage bebop. Certaines approches chromatiques dans l'harmonie, une manière d'approcher les notes par demi-ton, soit par en haut, soit par en bas, et puis certaines appoggiatures, certaines ornementations qui sont vraiment archétypiques du langage bop. Et puis ce qui l'en éloigne, c'est une manière de faire chanter le piano et de faire traverser l'harmonie par ses phrases, presque parfois en s'affranchissant, ou en tout cas en commençant à s'affranchir des contraintes de l'harmonie, donc de la séquence harmonique que définit la grille. On peut aussi parler peut-être de l'articulation, donc il a une articulation qui est presque binaire, c'est-à-dire une manière d'envisager les croches de manière égale, donc tac, 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 tac.
Alors c'est pas le même swing. Hein.
C'est pas du tout le même swing, donc il y a un côté peut-être un petit peu plus...
Un peu plus raide.
Un petit peu plus raide. Ouais. Parallèlement à ça, il pique ses notes. Donc c'est moins lié, c'est moins legato, comme diraient les pianistes classiques, que le jeu de Bud Powell, qui lui, au contraire, est dans l'articulation beaucoup plus ternaire, donc tec, 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 tec.
Alors cette génération, celle de Paul Blais, née en 1932, va prospérer notamment en Californie, auprès de musiciens comme Ornette Coleman, saxophoniste alto, qui va chercher une autre manière de prolonger l'héritage de Charlie Parker, l'héritage du bebop, l'héritage de Bud Powell pour les pianistes. Et même sur des thèmes de Charlie Parker, comme ce Clacto Visitstein, qui est une forme d'Anatole, on entend ici Paul Blais chercher vraiment autre chose. Nous sommes en 1958 à Los Angeles. Thank you. Un extrait de Cracked Vichenstein de Charlie Parker, enregistré en 1958 à Los Angeles par le quintet du pianiste Paul Bley, avec à ses côtés au saxophone alto Ornette Coleman, le trompettiste Don Cherry, le contrebassiste Charlie Haden et le batteur Billy Higgins.
Guillaume de Chassy. On entend une aisance, une souplesse dans l'articulation, une espèce de détermination à conduire l'improvisation vraiment jusqu'à ses limites, puisqu'à un moment, on entend Billy Higgins, le batteur, et Charlie Haden, le contrebassiste, s'arrêter pour laisser...
Ce qu'on appelle un stop chorus,
exactement,
pour le pianiste.
Et qui est une épreuve assez redoutable, puisque, en l'occurrence, Paul Bley ne lâche pas la barre, il garde parfaitement le cap, et ses comparses le reprennent au vol au tour suivant.
Et là, il joue vraiment au-delà du bop, hein, d'une certaine manière. C'est une nouvelle façon d'envisager le jazz moderne qu'il va aussi mettre en œuvre au sein de l'orchestre de George Russell un petit peu plus tard. Et là, ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'il n'est pas tout seul au piano, Guillaume de Chassy.
Il va dialoguer à deux pianos avec son quasi-contemporain, Bill Evans, qui est son quasi-opposé dans presque tous les domaines. Ce qui les rapproche, c'est la filiation par rapport à Bud Powell. En revanche, leur orientation esthétique est quasi diamétralement opposée. Bill Evans, on va l'entendre, est dans une sorte de contrôle presque parfait de son articulation, de sa phrase.
Du rapport entre l'harmonie et la mélodie.
Absolument, du rapport entre la mélodie et le rythme, la pulsation. Et on sent que son interlocuteur, Paul Bley, a décidé d'envoyer tout ça sur les roses et va en quelque sorte provoquer Bill Evans sur un terrain beaucoup plus libertaire, beaucoup plus fou, et va parvenir à ses fins, puisque au milieu de cette pièce, on va entendre Bill Evans entrer dans la folie de Paul Bley.
Bill Evans qui est à gauche sur vos enceintes et Paul Bley sur le canal de droite. Un extrait de la première partie de Chromatic Universe, composition de George Russell, avec ici en soliste deux pianistes, Paul Blais au piano à droite et Bill Evans également au piano. Mais du côté gauche, ce qui est important pour Paul Blais, ce n'est pas tellement le fait qu'il joue des standards ou qu'il joue des choses plus libres. Systématiquement, c'est la personnalité du styliste qu'il veut mettre en avant. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit sur un de ses textes de présentation d'un de ses enregistrements que vous avez traduit pour nous, Guillaume de Chassy.
Les changements d'accords, dit-il, n'ont jamais interféré avec ma manière d'entendre la mélodie, que ce soit en jouant des standards avec un tempo régulier et des séquences d'accords définies, ou des pièces libres de rythme et d'harmonie où le seul guide est le caractère saillant de la composition initiale. L'important est que l'auditeur perçoive une vraie personnalité.
Ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'effectivement, on retrouve ça dans toute sa discographie, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Là, on est encore dans un chapitre où on entend Paul Blais comme sideman, c'est-à-dire qu'il n'est pas leader de ses propres enregistrements ici, aux côtés de George Russell, ou dans le disque que nous allons écouter dans quelques minutes avec Coleman Hawkins et Sonny Rollins. Mais précisément, avec Coleman Hawkins et Sonny Rollins, là, il a affaire avec des standards. Alors, par exemple, il y a sur cet enregistrement All the Things You Are, qui est l'un des standards les plus connus du répertoire du jazz, une chanson de Jerome Kern. Peut-être qu'on peut prendre cet exemple, Guillaume, pour détailler la manière dont on peut jouer sur ce standard et la manière dont Paul Blais va se l'approprier, puisque nous avons un piano ici au Studio 119.
Oui, c'est toujours un test passionnant que d'entendre un styliste comme Paul Blais faire l'exercice de style, de s'exprimer sur un standard, sur une chanson. Et de quelle manière est-ce qu'il peut arriver à s'affranchir finalement de ces contraintes?
Je vous laisse rejoindre le piano du Studio 119 et puis on va peut-être dans un premier temps donner la mélodie pour nos auditeurs pour qu'ils se remémorent All the Things You Are de Jerome Kern.
Donc c'est une chanson d'amour qui fait 36 mesures à 4 temps. Et comme souvent chez Jerome Kern, il y a une grande richesse harmonique.
Alors maintenant, Guillaume, peut-être qu'on peut développer cette interprétation en improvisant sur cette chanson.
Voilà, je vais improviser de manière assez classique, donc avec un langage qui est issu du bebop. Je vais improviser une mélodie à la main droite qui suit le plus scrupuleusement possible la structure harmonique, donc le canevas harmonique de la grille. Et puis, je vais colorer à la main gauche, par des accords assez riches, le discours de la main droite. Donc c'est un discours de pianiste assez caractéristique. Dans ce qu'on va entendre tout à l'heure, Paul Blais ne colore pas le discours de la main droite avec sa main gauche. Donc il se prive de main gauche, ce qui va lui donner une plus grande liberté par rapport à l'harmonie. Je vais donc jouer une étape intermédiaire. Donc jouer une basse, en quelque sorte mimer le jeu de la contrebasse à ma main gauche, mais je ne vais pas jouer d'accord, donc je ne vais pas jouer l'harmonie pour colorer ce que joue ma main droite, mais je vais garder quand même un discours assez harmonique, donc assez dans les canons du canevas de la grille, à la main droite. Dernière étape, je garde la même main gauche, donc la même ligne de basse à la main gauche, donc je ne joue toujours pas d'accord à la main gauche, et je vais suivre le canevas harmonique, mais de très loin, en quelque sorte, dans le brouillard. Et c'est exactement ce que fait Paul Blais, c'est-à-dire qu'il va jouer à se perdre dans une grille harmonique qu'il connaît pourtant comme sa poche, un petit peu comme quelqu'un qui jouerait à Colin Maillard dans sa propre chambre. Là, j'ai suivi scrupuleusement la grille, mais au concours du conservatoire de jazz, je pense que j'aurai une mauvaise note.
C'est-à-dire que vous jouez out au lieu de jouer in d'une certaine manière.
Exactement, je joue out, mais sans aucun calcul mathématique par rapport à l'enrichissement de l'harmonie, ce qu'on appelle les superstructures de l'harmonie. Je suis résolument hors des clous, c'est-à-dire que je passe à travers champ. Je passe à travers champ, mais je ne me perds pas dans la structure de la chanson, c'est-à-dire que je respecte scrupuleusement le défilement des 36 mesures.
À travers chants, mais ce sont des chants de Blais, bien sûr, Guillaume de Chassy. 15 juillet 1963, Coleman Hawkins tout d'abord, puis Paul Blais et ensuite Sonny Rollins. Voilà le dernier A de la structure de All the Things You Are et le solo de Paul Blais qui commence. Le pont, là on est encore relativement dans les clous.
Là, on n'y est plus du tout.
Le dernier A.
Début de la structure. Début de la structure. le pont. Passage de relais à Sonny Rollins.
C'était le 15 juillet 1963, Sonny Rollins qui accueillait son aîné Coleman Hawkins avec Henry Grimes à la contrebasse, Roy McCurdy à la batterie et puis bien sûr Paul Blais au piano. On voit bien la direction que choisit ici Paul Blais. On voit aussi tout ce qu'elle va inspirer, par exemple chez Keith Jarrett. On l'entend déjà en germe ici, Guillaume de Chazy.
Oui, Jarrett évidemment a abondamment pillé Paul Blais. On a l'impression que le chant intérieur du pianiste obéit à sa propre logique et que sa capacité à nous convaincre, finalement, sa force de conviction est telle dans ce chant qu'il peut faire fi des contraintes de l'harmonie qui, dans cette grille complexe, se déroule, en tout cas est censée se dérouler de manière un peu implacable, un peu mécanique.
Il résonne d'une autre manière et en fait il prend des motifs, il va les pétrir et il va sculpter son propre langage.
Voilà, il va jusqu'au bout de son idée, quelles que soient les contraintes de l'harmonie. C'est un petit peu comme un skieur de slalom spécial qui déciderait de faire des virages plus longs que d'habitude et de louper volontairement des portes, mais qui irait jusqu'au bout de la course.
Dans certains cas, évidemment, cela tombe tout à fait bien puisqu'il a à côté de lui des partenaires qui suivent le même chemin. Je pense au trompettiste Don Ellis et au contrebassiste Steve Swallow avec lesquels il signe en avril 1961 cette interprétation du standard de Cole Porter à Love You. Thank you. I Love You, Cole Porter, ici le trio Paul Blais, piano, Donnellis, trompette, Steve Swallow à la contrebasse en 1961, avec une grande liberté ici dans l'accompagnement à la contrebasse de Steve Swallow, qui ne se sent pas obligé de marquer tous les temps, Guillaume de Chazy.
Voilà, contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans All the Things You Are, là on a vraiment un contrebassiste qui joue le jeu, je dirais, d'émancipation du pianiste, qui, comme lui, a un sens du tempo très, très fort, très, très sûr, mais qui se sert de cette force comme d'une sorte de pivot pour jouer autour du tempo, autour du rythme, autour de l'harmonie. Donc, les accords comme le swing sont toujours sous-entendus, deviennent de plus en plus abstraits, mais toujours présents.
On est ici évidemment dans la suggestion plus que dans l'affirmation, ce qui va à contre-courant de ce que l'on appelle le hard bop à cette époque-là. Nous sommes en 1961 et c'est exactement au même moment que le trio de Paul Blais avec Jimmy Giuffre et Steve Swallow, auquel nous avions déjà ensemble consacré une émission, Guillaume de Chazy enregistre ses disques. Ici, Carla, une composition de Paul Blais. Thank you. Carla, une composition de Paul Bley ici au piano aux côtés de Jimmy Giuffre, clarinette, et Steve Swallow à la contrebasse en avril 1961. C'est vraiment un objet très particulier, ce trio Guillaume de Chassis. C'est une sorte d'archipel isolé du monde du jazz à l'époque.
C'est malheureusement ce qui a provoqué sa perte, ou en tout cas la brièveté de son existence, puisque c'est un trio qui n'a duré que deux petites années, qui a eu un succès commercial proche du néant.
Mais des répercussions sur le jazz contemporain quelques années plus tard, jusqu'à aujourd'hui.
En particulier sur l'essor du jazz européen à la fin des années 60. Ce qu'on note toujours avec cette musique, c'est la beauté du son qu'il rapproche vraiment d'un ensemble de musique de chambre classique.
Mais dans le blues.
Dans le blues, c'est-à-dire que ces trois musiciens jouent du jazz, ont une approche, je dirais presque d'art brut dans leur manière d'envisager leurs instruments respectifs. Donc sans aucune affectation, sans maniérisme, sans chercher ce qu'on disait tout à l'heure, la joliesse. Et pourtant, ils parviennent à un son d'une beauté sans équivalent dans l'histoire du jazz. Et comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, ils jouent le blues. Cette composition de Paul Bley est un blues très caractéristique. L'improvisation de Bley là-dessus m'évoque toujours une sorte de funambule, comme ça, qui flotte au-dessus de l'harmonie, au-dessus même de la pulsation. C'est très souple, en même temps très engagé dans le geste musical. C'est très éloquent, mais ça n'est jamais appuyé.
Des musiciens qui s'approprient l'histoire du jazz, et le blues en particulier, et qui vont chercher d'autres sources américaines aussi, comme le country and western que Jimmy Giuffre pratiquait de son côté, et qui aura lui aussi une influence probable sur une personnalité comme celle de Keith Jarrett. On retrouve ici Paul Bley avec Steve Swallow et à la batterie Pete LaRocca. Turns, une composition de Paul Bley ici, en compagnie de Steve Swallow à la contrebasse et de Pete LaRocca à la batterie, en 1963, la même année. Paul Bley enregistre avec une autre section rythmique de choix, avec Gary Peacock à la contrebasse et Paul Mossian à la batterie. D'une certaine manière, la présence de Gary Peacock à côté de Paul Bley est tout à fait attendue. Ils vont tous les deux dans la même direction, Guillaume de Chassis.
Oui, ce sont deux musiciens très profondément enracinés dans l'histoire du jazz et en même temps deux voix très fortes, très profuses.
Et deux chercheurs aussi.
Voilà, deux chercheurs qui essaient d'élargir au maximum le champ expressif du jazz à cette époque-là, qui flirtent tous les deux avec la scène du free jazz.
Après avoir joué chacun avec Bill Evans d'ailleurs.
Ce qui est d'ailleurs un gage de parfaite musicalité. Et qui ont tous les deux, sur leurs instruments respectifs, donc la contrebasse et la batterie, été des précurseurs, des innovateurs et des chefs d'école.
Un extrait de Long Ago and Far Away, le standard de Jerome Kern par le trio de Paul Blais avec Gary Peacock et Paul Mossian en avril 1963. Cette liberté qu'il a en partage avec Gary Peacock, elle vient bien sûr aussi de la fréquentation assidue chez Gary Peacock des musiciens les plus libres du free jazz de l'époque. On pense à Albert Heller. Ghost First Variation, le saxophoniste Albert Heller avec Gary Peacock à la contrebasse et Sonny Murray à la batterie en 1964. Évidemment, ici, Paul Blais ne figure pas, mais c'est ce que l'on retrouve dans son jeu à cette époque-là. Paul Blais, par exemple, lorsqu'il retrouve Steve Swallow en 1965 avec un autre batteur, cette fois-ci, Marial Schulle, très engagé au sein du mouvement Free Jazz. Un extrait de Start de Carla Bley par le trio de Paul Blais avec Steve Swallow et Marial Schulle en 1965. C'est une manière de jouer en improvisant librement Guillaume de Chassy qu'il va faire fructifier jusqu'à nos jours, Paul Blais.
Ça m'évoque toujours la peinture de Jackson Pollock.
Ce côté dripping, comme ça, jeté sur la toile.
Voilà, on jette des grappes de son, on jette de l'émotion aussi. collectivement.
Et le tableau se constitue sous l'œil de celui qui écoute, finalement.
Absolument. Et c'est une musique que j'ai un petit peu pratiquée et qui est épuisante à réaliser, puisqu'elle requiert un engagement de chaque seconde, énormément d'énergie.
Évidemment, il faut des compères extrêmement liés pour pratiquer cette musique. C'est le cas de Charlie Haddon, qu'il retrouve aux côtés de Paul Motion en 1990 dans ce Memoirs, où l'on entend une formidable interaction, une magnifique écoute entre les trois musiciens.
Ce qui est beau dans cette plage, c'est qu'on entend d'abord les musiciens qui s'accordent. Donc je pense qu'ils ne devaient pas soupçonner que les micros d'enregistrement étaient ouverts à ce moment-là. On entend Charlie Haddon accorder sa contrebasse, mi la ré sol. Et puis voilà, la musique en fait est engagée. Paul Blais commence à jouer quelques grappes d'accords. Paul Motion lui répond sur sa cymbale et les voilà partis.
Un extrait de Memoirs signé Paul Blais, mais c'est en fait une improvisation partagée. Paul Blais, piano, Charlie Haddon, contrebasse, Paul Motion à la batterie, enregistré en Italie en 1990. Le trio comme espace de prédilection pour Paul Blais, mais ce n'est pas le seul, il a beaucoup enregistré en solitaire, on en parlera un petit peu plus tard, mais aussi en duo avec Steve Swallow, en duo avec Gary Peacock, et là encore, il retrouve ses partenaires ou bien pour des choix très libres ou bien pour travailler sur des compositions écrites comme celle de Paul Blais qui s'intitule Cousins.
De même que dans ce trio qu'on vient d'entendre avec Charlie Haddon et Paul Motion, on voit encore plus dans ce format duo avec Steve Swallow combien Paul Blais est un grand joueur de silence. Pour lui, le silence, c'est un outil expressif. Ça met en valeur d'autant plus ces accords de main gauche, ces colorations très parcimonieuses, très économes et finalement extrêmement expressives du discours mélodique de la main droite. Et dans ce qu'on va entendre, le contrebassiste Steve Swallow, dans quelque sorte l'anti-Gary Peacock, c'est-à-dire qu'il joue très peu de notes, avec un très gros son, beaucoup d'éloquence dans chaque geste musical, et c'est le silence qui fait le reste.
Cousins, Paul Blais au piano, Steve Swallow à la contrebasse en septembre 1963. Une composition de Paul Blais. 26 ans plus tard, Paul Blais retrouve Gary Peacock cette fois-ci. Et là, on peut penser que l'improvisation est totale, Guillaume de Chassy.
Oui, là, on entend vraiment deux musiciens qui larguent les amarres et qui foncent vers le large pour reprendre l'heureuse expression de Philippe Carle, qui a été un grand défenseur de Jimmy Giuffre, mais pas seulement, également de Paul Blais et Gary Peacock. Voilà, c'est deux musiciens qui s'écoutent intensément, qui se tiennent à l'affût l'un de l'autre, qui laissent parler la musique.
Tout à l'oreille. Thank you. Again and You, Paul Blais, Gary Peacock, enregistré en 1989. Paul Blais en trio, Paul Blais en duo, Paul Blais en solo aussi. On a entendu au début de cette émission une magnifique interprétation d'une composition de Carla Bley, Aida Lupino. Évidemment, Paul Blais n'est pas le premier à enregistrer en solitaire dans l'histoire du jazz. Celui qui l'a peut-être le plus marqué, c'est Thelonious Monk, Guillaume de Chassis.
Oui, on parlait tout à l'heure d'art brut, de minéralité dans l'expression, peut-être certains mélanges de naïveté et de science. Ce sont des éléments peut-être un peu paradoxaux, peut-être à première vue irréconciliables. Et il y a quelques artistes, et notamment quelques pianistes qui parviennent à les réconcilier. Et Thelonious Monk, bien sûr, en fait partie. Il fait également partie des grands joueurs de silence, cette dimension de l'espace qu'on évoquait tout à l'heure, qui est si importante, si prégnante dans le travail de Paul Blais. Elle est un élément fondamental dans le jeu de Thelonious Monk.
Un jeu qui ne refuse ni le chant, ni les aspérités. Voici Reflections, enregistré en 1959 par Thelonious Monk. Successivement, un extrait de Reflections, Thelonious Monk en 1959, et puis King Korn, une composition de Carla Bley, enregistrée en 1992 par Paul Blais en solitaire à New York. Guillaume de Chassis, si Paul Blais n'a pas la même empreinte dans l'histoire du jazz que Bill Evans ou Keith Jarrett, c'est un peu le chaînon manquant. Il faut peut-être faire un pas de côté pour découvrir son univers.
Certaines de ces phrases me font penser à la construction d'un escalier sur le vide. On ne sait jamais où la première marche et la dernière marche vont bien pouvoir arriver.
Oui, il y a un côté assez circulaire aussi, un peu comme dans les compositions de Karl Ablay d'ailleurs.
C'est circulaire, mais pour autant, ce n'est pas conceptuel. C'est-à-dire que ce n'est pas un musicien cérébral, Paul Blais. Je pense que c'est un musicien en même temps extrêmement intelligent et extrêmement instinctif. Donc il y a un côté très animal, il y a un côté qui évite volontairement toute préméditation, finalement, dans la construction de l'improvisation. Et c'est ce qui fait que d'une pièce à l'autre ou d'un concert à l'autre, on peut être soit charmé, emballé par Paul Blais ou extrêmement déçu puisqu'il a des trous d'air dans son jeu.
Et aussi dans sa discographie, hein, il faut le dire.
Absolument, il y a des albums qui sont ratés. C'est vraiment un mélange de fragilité, et d'autorité, de force. Et on est aujourd'hui dans une époque en 2013 où tous les musiciens de jazz et en particulier les pianistes ont une maîtrise confondante de leur instrument. Et peut-être que justement, parfois, il manque cette once de fragilité, cette faille et ce lâcher-prise que j'aime tant chez quelqu'un comme Paul Blais.
Guillaume de Chassy, il y a tout de même un héritage aujourd'hui de Paul Blais, des pianistes qui perpétuent son univers, qui essayent d'aller encore plus loin. Bien sûr, vous en faites partie, Guillaume de Chassy, avec votre trio, mais il y en a d'autres en France et à l'étranger.
Bien sûr, en France, je pense au pianiste Benoît Delbecq et aux États-Unis, au pianiste Jason Moran ou à Jerry Allen.
Qui aime beaucoup ce type de prise de risque. On va se quitter, Guillaume de Chassy, comme nous avons commencé avec une composition de Karl Ablay. Elle s'intitule Around Again, Paul Blais au piano en avril 1992. Merci Guillaume. Merci beaucoup Guillaume de Chassy d'être venu ce matin dans cette émission. Merci à Pierrick Charles et Guillaume Ledu pour la prise de son. Léo Duroy a accordé le piano. Dorothée Goll m'a aidé à préparer cette émission. Christine Amado l'a réalisée comme chaque semaine. Soyez à l'écoute à 11h mardi prochain. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur francemusique.fr. C'est le site de France Musique. Et bien sûr, je vous engage à vous abonner au podcast.